Enceinte et végétarienne avec Hélène Defossé.
Donc bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais commencer par me présenter brièvement parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Bon, c'est pas très étonnant parce que j'ai pas encore été invitée sur le plateau de Laurent Ruquier et non plus aux 20h bizarrement. J'attends toujours qu'on m'invite pour parler des bienfaits d'une alimentation végétarienne, végétalienne. Voilà. Bon, bah c'est... Alors, je plaisante avec ça, mais en fait, c'est quand même assez révélateur du caractère brûlant du sujet. Hein. Parce que le végétarisme aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'assez marginal hein, en France, même s'il y a des évolutions récentes très positives. Ça reste quand même un peu marginal. Et alors, quand il s'agit là, pour le coup, d'imposer, je mets des guillemets, ce régime aux enfants, là, on est vraiment dans le domaine du tabou quand même encore. C'est quelque chose qui passe pas encore très bien, d'où l'envie d'écrire ce livre et de parler de ça avec vous, de diffuser sur ce sujet, parce que je pense que plus on sera informé, plus on va arriver à briser ce cycle-là et on va arriver à faire évoluer la société. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Hélène Defossé. J'avais écrit un premier livre plus généraliste sur le végétarisme il y a quelques années. Donc, c'était un livre qui traitait vraiment des raisons. Là, c'était plutôt un traité d'éthique. En fait, je partageais mon expérience de végétarienne depuis l'enfance. Et puis voilà, j'explorais les questions que ça posait. C'était vraiment né des questions que j'avais entendues depuis toujours, en fait, et même des attaques parfois. Et j'avais eu envie d'y répondre par ce livre, voilà. Et puis après, donc plus tard, quand je suis devenue maman, là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun ouvrage en français spécifiquement dédié aux futures mamans végétariennes ou végétaliennes. Donc, bon, moi, j'ai pu me tourner vers pas mal d'ouvrages. Bon, pas mal, c'est même un grand mot. Quelques ouvrages en anglais. Il y a un classique américain qui s'appelle Your Vegetarian Pregnancy du docteur Holly Roberts. C'est une obstétricienne américaine très, très bien, très reconnue. Bon, ça, c'est un peu un classique. Il y a plusieurs autres ouvrages que je mentionne dans mon livre parce que je m'en suis beaucoup servie. Mais vraiment, rien en français. À ce moment-là, donc je me suis dit que vraiment c'était un problème parce que l'information, c'est quand même la base dans une société où on peut avoir beaucoup de pression familiale. C'est rare que toute la famille soit acquise à ces idées et informée. Et puis on peut avoir aussi des pressions des médecins parce que c'est rare aussi malheureusement que les médecins soient simplement même informés sur le sujet et bienveillants envers des femmes qui feraient ce choix. Donc voilà, l'idée c'est informer pour donner le pouvoir après aux femmes de pouvoir répondre, de pouvoir se sentir sûres de leur choix, voilà. Donc j'espère pouvoir répondre au maximum à vos questions. On va ensuite faire un petit échange de questions. Donc je veux dire aussi qu'on va parler de nutrition, mais pas que, parce que évidemment quand on parle de végétarisme, même de végétarisme en général, ça soulève toujours beaucoup de questions éthiques, de questions de rapport aux autres, de rapport à la violence, de rapport au choix de vie qu'on fait. Enfin, c'est vraiment une boîte de Pandore qui soulève tout un tas de questionnements sur notre rapport au monde. Et c'est justement c'est ce qui me passionne dans ce sujet, justement, c'est qu'on n'en finit pas de l'explorer et ça n'en finit pas de nous faire réfléchir sur nos modes de vie et nos choix et comment on veut vivre. Voilà. Donc, je vais commencer d'abord par la nutrition quand même. Je vais commencer par vous donner une bonne nouvelle, c'est que donc c'est possible, c'est tout à fait possible d'être enceinte et végétarienne ou végétalienne et d'être en parfaite santé. Hein. Donc, c'est ce qu'affirme depuis de nombreuses années déjà la plus grande association au monde de professionnels de la nutrition, l'American Academy of Nutrition and Dietetics. Donc avec de nombreuses études à l'appui hein, qui réaffirment régulièrement dans ses statuts que c'est un régime qui ne pose aucun problème pour tous les âges de la vie, y compris la grossesse voilà, et la petite enfance. Une étude, entre autres, hein, en particulier, qui est mise en avant souvent, c'est la fameuse étude menée sur des populations américaines membres de l'église adventiste du 7e jour, donc qui sont majoritairement végétariens, donc menée entre 2002 et 2007 sur 73 308 hommes, femmes et enfants, et qui montre donc chez ces enfants aucun problème particulier, une croissance normale, etc. Voilà. Donc voilà, la femme enceinte végétarienne finalement n'est pas tellement différente des autres femmes enceintes. Elles doivent faire attention à manger équilibré, varié, à surveiller son poids, quelques nutriments clés comme le fer, etc. Elle va même, selon moi, donc c'est ce que j'essaye de démontrer aussi, à avoir certains avantages non négligeables par rapport à une femme omnivore au niveau de la prise de poids, donc avec tous les problèmes qui peuvent l'accompagner, comme le diabète, etc. Et puis au niveau surtout de l'exposition aux pesticides, puisque enfin à tout ce qui va être toxique et dangereux pour le fœtus. Donc voilà, elle va aussi avoir. On fait très très attention pendant les premiers mois de grossesse à l'apport en acide folique. Et l'acide folique, par exemple, c'est quelque chose qu'on trouve en abondance dans les légumes verts, dans les végétaux à feuilles vertes. Donc du coup là pour le coup la femme enceinte végétarienne va être aussi avantagée. Elle va rarement avoir ce problème de carence en acide folique qui, lorsqu'il survient, a des conséquences vraiment très graves sur le fœtus. Et c'est pour ça que beaucoup de médecins donnent systématiquement, en Angleterre c'est systématique, en France il y en a de plus en plus, une supplémentation en acide folique dans les premiers mois. Voilà. Donc pour la nutrition, j'ai envie de parler de trois points clés, en fait trois questions qui reviennent toujours quand on parle de grossesse végétarienne, végétalienne. C'est le fer d'abord, le calcium, et puis dernier point, le poisson, parce que le poisson c'est le mythique allié de la femme enceinte depuis toujours. Voilà. Donc je vais commencer par le fer. Donc bien sûr, ça vous savez sans doute que les besoins en fer augmentent de manière vraiment importante pendant la grossesse, parce que le volume sanguin augmente énormément, hein. C'est le sang qui circule dans le corps peut aller jusqu'à 1 ou 2 litres de plus au moment de l'accouchement. Donc il faut essayer de consommer ça pour ça, donc chaque jour des aliments végétaux très riches en fer, comme donc les légumes à feuilles vertes, les lentilles, les différentes variétés de noix, les pruneaux, le quinoa, les olives, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sources végétales de fer, ça c'est pas du tout un problème. En deux clics sur Google, on trouve les tableaux des aliments végétaux riches en fer, donc essayez d'en consommer tous les jours. Une astuce pour mieux l'assimiler, c'est de le consommer en même temps que des aliments riches en vitamine C, des agrumes ou des brocolis, une petite technique que j'aimais bien, moi, c'est mettre un petit filet de citron partout, hein, ça booste les apports en fer. Un petit filet de citron dans une soupe aux lentilles, par exemple, voilà, ça c'est top. Pour le fer, c'est à peu près tout. Aussi, se faire des checks réguliers, mais ça c'est assez bien ancré en général, hein, chez les femmes enceintes en France. On fait faire beaucoup de tests sanguins, donc toujours vérifier si le taux est bon, il n'y a pas de raison de se supplémenter. S'il n'est pas bon, essayez d'augmenter encore par l'alimentation ou éventuellement de se supplémenter, ça faut voir avec son médecin. Mais voilà, contrôler un taux de fer régulier. Moi, je suis la preuve que c'est pas qu'on peut juste par l'alimentation végétale, au contraire, avoir un très bon apport en fer, puisque j'avais pas du tout eu ce problème de supplémentation en fer pendant la grossesse et même après l'accouchement, où pourtant j'avais pas mal perdu de sang. Ils ont testé, ils ont dit non, ça va, votre fer est bon, donc voilà. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Je donne aussi d'autres petites astuces sur le fer dans le bouquin, parce qu'il y a il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, sympa. Le deuxième point, c'est le calcium. Le calcium va être vraiment très important au niveau du deuxième trimestre, parce que c'est là que les os du bébé vont se former. Donc là, on a des besoins vraiment augmentés. Même chose, c'est le calcium, il y en a partout. Donc les gens, vous connaissez le mythe du lait, du calcium, c'est dans le lait, etc. Sauf que le calcium, en fait, il y en a partout. C'est le cinquième élément le plus abondant sur Terre. et les vaches, elles ne le fabriquent pas, donc elles le prélèvent bien quelque part, et comme elles ne boivent pas de lait elles-mêmes, ben, voilà, c'est forcément dans la terre, dans les végétaux. Nous, il y en a partout, même chose. En deux clics, vous trouvez les sources végétales de calcium sur Internet. Je peux donner des petits exemples en vrac, mais il y en a plein. Donc les amandes, les brocolis, les figues séchées, enfin noix et fruits secs, tout ça, c'est très bien. Les graines de sésame complètes, haricots secs, pois chiches, le tempeh. Voilà, et bon, moi je conseille aux femmes enceintes d'avoir toujours avec elles un petit sac de... le fameux petit sac de noix et de graines, fruits secs, ça c'est vraiment bien, c'est bien pour les fringales, et on est sûr d'avoir toujours le calcium qu'il faut comme ça. Voilà, c'est pratique à emmener partout avec soi. Autre astuce pour bien assimiler le calcium, c'est la vitamine D, il faut un apport suffisant en vitamine D. C'est un tout petit peu plus délicat pour les végétariens, végétaliens. Si vous êtes par exemple dans une période où vous n'êtes pas du tout exposé au soleil, puisque la vitamine D elle va se synthétiser comme ça grâce à l'exposition au soleil, peut-être éventuellement se tourner vers une supplémentation, à voir avec le docteur aussi. Il y a maintenant de la vitamine D végétale disponible, très, très facile à utiliser, voilà, la vitamine D3. Et l'exercice physique aussi, maintenir un petit exercice physique pendant la grossesse, parce que c'est aussi ça qui aide à fixer le calcium, parce que c'est bien d'avoir des gros apports en calcium, l'important c'est d'arriver à le fixer, d'arriver à l'utiliser, et pour l'utiliser il faut avoir une activité physique. On peut supplémenter en calcium à fond, des gens qui resteront allongés, ça marchera pas, quoi. Voilà. Et le dernier point que je voulais aborder dans le petit chapitre nutrition avec vous aujourd'hui, c'était le poisson, parce que je trouve que c'est un grand sujet et un sujet très, très important, surtout que là on est sur un salon du bio, donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui parler des produits de la mer et des océans, c'est vraiment indispensable. Quand on parle d'écologie, ça va être une des clés des enjeux de notre avenir, je pense. Bon, d'un point de vue strictement nutrition, on a toujours longtemps dit que le poisson, c'était l'allié de la femme enceinte, hein. On a souvent entendu ça, c'est les trucs qu'entendaient nos grands-mères, nos mères, parce qu'il y a des oméga-3 dans les poissons gras. Voilà. Et que les oméga-3, c'est bon pour le développement du cerveau, du bébé, etc. Sauf que les données ont un petit peu changé, même beaucoup changé, puisque ces dernières années... on a constaté vraiment une augmentation des polluants dans l'océan qui était très importante et qu'on retrouve dans les animaux. Donc ces polluants, malheureusement, là pour le coup, ils ont vraiment des conséquences très très graves sur le développement du fœtus. Je pense donc au méthylmercure qu'on va retrouver dans la graisse des animaux. C'est le principe de la bioaccumulation, où voilà, c'est des polluants qui ne se détruisent pas, mais qui s'accumulent. C'est vraiment le mot bioaccumulation. Donc dans les graisses, la graisse les retient comme un petit filet. Et du coup, voilà, comme il n'y a pas moyen de les éliminer, plus on va aller en haut de la chaîne alimentaire vers des poissons prédateurs, voilà, et plus va y avoir des concentrations fortes de polluants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir dans les recommandations officielles, les choses ont été, le discours a été modifié petit à petit, hein. Avant on disait donc du poisson presque tous les jours, je ne sais pas exactement ce qu'on disait pour les femmes enceintes. Là, moi en tout cas quand j'étais enceinte, dans les trucs officiels que je recevais, c'était attention, le poisson, oui, mais pas tel poisson, pas plus de 2 fois par semaine, etc. Ah, ça devient tellement compliqué que là on se dit attendez, ce serait pas plus simple de pas manger de poisson, parce que voilà, le risque est tel, d'autant que c'est en fait très dur à mesurer ces taux de polluants. On peut savoir exactement d'où provient un poisson dans ce qu'on achète, c'est vraiment très compliqué. On sait qu'on peut pas tellement faire confiance au label aussi à ce niveau là enfin, c'est très compliqué. Donc voilà, moi ce que j'essaye de prôner, c'est non, en fait on n'a pas besoin de poisson, donc c'est pas la peine d'aller prendre ce risque alors qu'on peut trouver des oméga-3, des sources végétales d'oméga-3, donc c'est vraiment inutile. Je voulais, oui, pour illustrer ce que je viens de dire, parce que c'est au cas où vous penseriez que c'est voilà moi qui dis ça comme ça, je source toujours ce que je dis, hein, je fais très attention à ça, et là j'ai mon attention a été attirée sur un magazine indépendant, c'est un magazine qui s'adresse aux professionnels de la médecine, donc ça s'appelle Prescrire, c'est le seul magazine, la seule revue vraiment indépendante de médecine à l'heure actuelle. Et ils ont publié un gros dossier qui s'appelle La femme enceinte, il s'intitule La femme enceinte ne pas nuire. Et dans ce dossier, donc j'ai cité, ils disent clairement que les recommandations aujourd'hui, c'est qu'il faut limiter ou éviter les produits de la mère lorsqu'on est enceinte, mais aussi, et ça va peut-être intéresser des personnes aussi ici, mais aussi lorsqu'on a le projet de concevoir et pour les enfants de moins de 3 ans. Voilà, c'est l'état actuel des choses sur la vigilance qu'on peut avoir et les craintes qu'on peut avoir vis-à-vis de ces produits, hein. Voilà, qui peuvent être vraiment potentiellement très dangereux. Donc voilà. Bon, après, on a parlé des oméga 3. Il y a l'iode aussi qui est très important pour aussi pour les jeunes enfants en particulier. Mais ça, l'iode, c'est vraiment pas un problème puisque il est en quantité vraiment astronomique dans les algues marines. Donc il suffit on peut prendre du sel iodé, hein, ça peut être un choix, il y a aussi du sel iodé, c'est facile à trouver. Mais les algues, c'est un super aliment qui a aussi plein d'autres avantages et qui est facilement utilisable en paillettes, on le glisse dans les soupes, dans les smoothies, dans les petits pots de bébé. Dans... Voilà, c'est à mon avis tout bénéfice d'apprendre à utiliser les algues. Voilà, pour être sûr d'avoir ces sources d'iode sans avoir à manger de poisson et sans avoir à... Voilà. Encore une fois, comme c'est le salon d'écologie, je voulais juste faire un petit rappel aussi, puisque là on parlait que de nutrition, mais sur le poisson, pour dire que la consommation du poisson aujourd'hui, elle a un impact écologique, un impact très grave. Hein. Donc vous savez très sûr certainement qu'on est en train vraiment d'épuiser nos réserves de poisson, que la situation est très grave, puisque les experts de l'ONU ont estimé que d'ici, ils ont estimé à 2048, je crois, l'année de la fermeture de l'effondrement en fait économique de toutes les pêcheries du monde, parce que là, le mode de pêche qui est utilisé à l'heure actuelle et aucune réelle mesure n'est prise ou aucune mesure n'est appliquée, fait que on épuise les océans complètement. On a décimé 90% des espèces des plus gros prédateurs dans l'océan, donc des requins et toutes les espèces de prédateurs qui sont eux les régulateurs des océans. Voilà, les coraux sont aussi en train de mourir à cause de l'acidification des océans, etc. Enfin bref, d'un point de vue écologique, consommer du poisson aujourd'hui, ça pose une vraie question. Voilà, donc là c'est une parenthèse par rapport au sujet nutrition, mais vraiment il y a plein de raisons d'éviter le poisson et la nutrition c'en est qu'une parmi d'autres, hein. Voilà. Dernier tout petit point nutrition sur la B12, puisque c'est la seule vitamine qui peut être problématique en particulier pour les végétaliens. Si on ne consomme aucun produit animaux, vous savez que il faut se supplémenter en B12. Enfin, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on recommande aujourd'hui, et c'est ce que recommandent les grandes associations. Végétarienne, végétalienne, la Vegan Society, l'Association végétarienne de France, de se supplémenter, sachant que comme toutes les vitamines du groupe B, ce sont des vitamines qu'on élimine, on peut pas faire de surdosage, il n'y a pas de seuil de toxicité, donc c'est pas voilà. Donc on recommande aux gens de se supplémenter à raison de 10 microgrammes, c'est la dose adulte par jour. Et pour la femme enceinte, on reste sur la même dose, puisque de toute façon, c'est des doses supérieures aux besoins, pour être sûr qu'on assimile ce dont on a besoin, supérieures aux besoins recommandés. Donc, j'avais interrogé à ce sujet le docteur Jérôme Bernard Pellet, qui m'avait dit, on reste, pour l'instant, les recommandations, c'est on reste sur 10 microgrammes, on continue de prendre la supplémentation en B12 qu'on prendrait en temps normal pour un adulte. Voilà. Et après, pour les enfants... Ça, c'est l'Association végétarienne de France aussi qui vient de publier un dossier là-dessus et qui recommande de donner, donc par rapport à cette dose, si on a un comprimé de 10 microgrammes, donc de redonner un quart de cette dose pour les bébés de 6 à 24 mois. Et on passe à la moitié de la dose entre 2 et 12 ans. Voilà, ça, ce sont les recommandations officielles. Bon, je pense que voilà, là, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur la nutrition dans un premier temps, et j'aimerais passer aux autres questions un petit peu. Donc là, c'est la question répondre à l'entourage, parce que c'est une grande question. Quand on choisit d'avoir une grossesse végétarienne et que tout le monde ne comprend pas forcément, parce que ça suscite des peurs. Donc il y a bien sûr la fameuse question que j'aime beaucoup, c'est « Mais tu vas quand même lui laisser le choix à ton enfant. Tu ne vas pas lui, alors attention gros mot, imposer ton idéologie. » Voilà. Donc moi, j'ai toujours répondu que je lui impose cette chose horrible de vivre et de grandir sans tuer, en le protégeant de nombreuses maladies et en lui apprenant le plaisir de s'alimenter simplement, en faisant de lui une personne capable de faire des choix raisonnés et pas de devenir un pantin téléguidé par la publicité. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que élever des enfants, c'est toujours transmettre des valeurs. C'est jamais les laisser libres de tout. Au contraire, ce qu'on fait, c'est humblement essayer de transmettre ce que nous, par notre expérience de vie, on a réussi à construire et à imaginer comme les meilleures choses, ce qu'on imagine être le meilleur. Ça c'est dans tous les domaines. Donc si on pense que c'est meilleur pour lui à plein de points de vue d'être végétarien, ce serait complètement bizarre d'arrêter à ce moment-là juste parce que il y a une pression de la norme qui nous dit que non. Voilà. Donc voilà. Bon, l'idée c'est quand même pour pouvoir répondre de manière sûr à certaines personnes qui chercheraient à déstabiliser, c'est d'être informé le plus possible. Une fois qu'on sait vraiment pourquoi on le fait et qu'on a suffisamment de clés pour pouvoir répondre, normalement on ne doit pas pouvoir être déstabilisé, puisque ces attaques qui viennent de l'extérieur, elles se fondent sur seulement des préjugés. Donc si en face on a des informations solides à donner contre les préjugés, bon, des fois c'est plus difficile que avec certaines personnes c'est plus compliqué, mais voilà, après il faut essayer de contourner les choses, il faut utiliser l'humour parfois, ça peut marcher. Voilà, moi je sais qu'on répondait à cette question avec mon mari, on aimait bien répondre non, on va pas lui imposer d'être végétarien, et puis d'ailleurs on est tellement pro-choix que on va lui choisir peut-être 3 prénoms. Et puis comme ça, quand il sera assez grand, il pourra choisir celui qu'il veut. Parce que quand même, imposer un prénom, c'est quand même déjà lui imposer toute une culture, tout un tas de choses. Donc voilà. Bon, ça marche pas avec tout le monde, mais on peut tenter avec certaines personnes. Et puis sinon, toujours rediriger vers des informations, des sites internet, s'aider d'associations, de livres, encore mieux de professionnels de la santé si on a autour de nous des médecins qui nous soutiennent ou quoi, c'est encore mieux. Un conjoint, n'importe qui, il faut se trouver des alliés. Il ne faut pas rester isolé aussi. Il y a des groupes maintenant de parents végétariens, végétaliens. Ça peut être un fort soutien quand on se sent un peu perdu, quand on se sent un peu isolé. Hein. Le moment de la grossesse, ça peut quand même être un moment parfois un peu de vulnérabilité, puisque surtout quand c'est le premier enfant, hein, on se sent un peu écrasé par cette responsabilité immense de dire qu'on va donner la vie à un être, qu'on va justement le guider, on va justement lui imposer tout un tas de choses, de valeurs. On a parfois peut-être tendance à écouter des gens en se disant mamie c'est mieux, tati c'est mieux, parce qu'elle a déjà eu des enfants, tout ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des conseils à prendre hein, de mamie et de tati, mais il faut faire la part des choses dans ces conseils et dans ce qui va être plutôt des préjugés et des choses qui vont nous déstabiliser et nous faire abandonner des principes importants. Et c'est dommage d'abandonner des... Enfin, voilà. Moi, je trouve que ce serait très dommage pour une femme végétarienne, végétalienne aujourd'hui, et j'en ai rencontré, hein, de décider d'arrêter, de se remettre à manger de la viande ou du poisson enceinte parce que... elle a trop de doutes ou trop de questions qui restent en suspens. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc encore une fois, le but de ce livre pour moi, c'était informer pour redonner le pouvoir aux femmes de pouvoir être solides dans leurs choix. Voilà, et de pas se laisser déstabiliser. Et puis après, j'aime bien dire aussi que bébé fera le reste, hein, parce qu'il y a des fois, cette fois, c'est pas du tout accepté. Et puis finalement, en voyant l'enfant en bonne santé, que tout se passe bien, etc., Bon, il n'y a pas de. Les personnes finissent par évoluer aussi autour, hein, finissent par se rendre compte que voilà, que c'est pas un problème, au contraire. Donc, je vais parler du coup, dans la suite logique, du bébé végétarien un petit peu, parce que dans le livre, j'aborde pas seulement la grossesse, j'aborde aussi les premiers mois de vie, en fait, jusqu'à la diversification alimentaire. Donc, au début, le bébé qui naît, il n'est pas du tout différent de n'importe quel autre bébé, puisqu'en fait, tous les bébés sont végétariens, végétaliens jusqu'à 7 mois, puisqu'ils ne boivent que du lait, soit le lait de leur maman, soit du lait maternisé, mais ils n'ont pas d'autres apports alimentaires, donc... Jusque-là, ça pose pas tellement de problèmes. Selon votre choix, si vous allaitez, ce que j'encourage fortement, parce que toutes les recherches que j'ai faites m'ont vraiment encouragée dans ce sens. Enfin, moi, je suis convaincue que l'allaitement, c'est quand même vraiment l'idéal pour les bébés. Je développe ça dans le livre. Maintenant, il faut savoir que pour celles qui peuvent pas ou qui n'y arrivent pas, qui font le choix aussi, ça, c'est possible de ne pas le faire. Il y a des laits aujourd'hui végétaux, enfin il y a des laits maternisés spécifiques pour les bébés qui sont complètement véganes. On peut en trouver. Alors l'offre se diversifie de plus en plus. On a de plus en plus de produits. Donc là, moi, je peux pas vous parler d'une marque en particulier, hein, parce que c'est pas mon domaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une offre qui se développe constamment, qui se diversifie. Il faut aller voir les associations aussi végétariennes, véganes, qui pourront vous aiguiller si vous avez un doute sur un produit, et faire vous-même votre choix ensuite de ce que vous estimez être le meilleur. Moi, je rappelle souvent que le lait maternisé, en fait, c'est un produit industriel comme un autre, finalement. C'est un produit fabriqué. Donc, comme tous les produits industriels, comme tous les produits fabriqués, pour les végétariens, végétaliens, c'est la même règle qui s'impose, à savoir vigilance, lire les étiquettes, pas faire confiance aux gros titres, voilà, essayer de s'informer au maximum sur qu'est-ce qu'on consomme. Et voilà, je pense que c'est une bonne règle de conduite dès lors qu'on consomme un produit fabriqué industriel, quoi. Pas lire la grosse étiquette, mais aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière et être sûr de choisir quelque chose qu'on estime être le meilleur pour son bébé. Bon. L'important aussi, c'est de bien choisir son médecin à ce moment-là, parce que ça va être un autre un peu moment délicat où à la diversification. Bon, si vous avez un médecin classique qui n'est pas spécifiquement informé sur le sujet, il va vous tendre une feuille avec les recommandations officielles de la Société française de pédiatrie, qui va vous dire, bon bah voilà, là il faut introduire la viande blanche, là il faut introduire. Donc on peut être un petit peu perdu vis-à-vis de ça. Mon conseil, c'est de trouver un médecin qui soit au minimum bienveillant, qui ne va pas vous juger là-dessus, même s'il ne peut pas vous aiguiller spécifiquement. Et ensuite, aller chercher des informations ailleurs, relativiser des choses qui peuvent vous être dites, comme vous êtes délivrées comme des dogmes. Hein. Moi, ce que j'aime bien aussi à rappeler tout le temps, c'est qu'en nutrition, c'est ce que j'ai découvert à force de faire des recherches, en nutrition, il n'y a pas de dogme, quoi. On est vraiment, enfin, il ne devrait pas. Quand les choses sont posées comme des dogmes, oui, c'est comme ça. Oui, il faut absolument tel truc ou tel truc. Non, absolument pas tel. Ça, c'est impossible. Et ça ne va pas parce que c'est vraiment un domaine dans lequel on n'arrête pas de faire des découvertes, qui a énormément évolué en 10 ans. Et voilà, c'est encore quelque chose qui évolue en permanence. Donc, il faut en permanence s'informer. Il faut tout de suite fuir quand on nous dit des vérités assénées comme des vérités ou des paroles d'évangile. Là, à mon avis, il vaut mieux changer de médecin. Mais voilà, un petit exemple que je donne par rapport à ces dogmes. Donc, on aurait tendance à prendre ces recommandations de la Société française de pédiatrie en se disant « Ah oui, ah bah, ils savent ce qu'ils disent et tout ». Je fais une parenthèse pour dire que tous les médecins de la Société française de pédiatrie ne sont pas très, comment dire, forcément... Il y a des conflits d'intérêts, quoi. Il y en a qui posent vraiment problème quand même dans leur conflit d'intérêts. Donc on peut s'interroger sur pourquoi ils prônent ce qu'ils prônent. Bon, ça, c'est une parenthèse. En dehors de ça, comme j'ai dit, il n'y a pas de dogme. Donc prendre ces informations. Exemple, ils vous disent sur la feuille... alors les légumineuses, c'est pas avant 18 mois, voilà, c'est ça qu'on dit en France, pas avant 18 mois pour les enfants. Ah bon, d'accord. Ok. Bon, bah, c'est un peu embêtant quand même pour les végétariens parce que c'est quand même une base de l'alimentation. Et là, donc, je vais voir sur les sociétés équivalentes, entre guillemets, au Canada et aux États-Unis. Et là, ils vous disent dès 9 mois. Alors bon, alors là, on se dit, bon, soit les bébés français ont un système digestif complètement à part des Nord-Américains, soit, bon, on prend ces informations, on les mixe et on relativise et on essaye de se dire, voilà, bon, peut-être que 18 mois, c'est peut-être un peu extrême, hein, et peut-être que je vais essayer un peu avant, peut-être entre 9 et 18 mois, voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé très tôt, donc je recommande de commencer assez tôt au moment de la diversification. Les lentilles, commencer par les lentilles corail qui sont très digestes, très faciles à utiliser en plus dans les purées. Et puis après, on procède comme avec les allergènes en fait. On procède petit à petit, on introduit un aliment. Si ça se passe bien, on continue, il n'y a pas de raison. Donc aliment par aliment, on isole. Ça se passe bien, bon, on continue. Ça se passe pas bien, on a un doute, il y a des petits dérangements gastriques. Bon, on fait une pause et puis on réessaye quelques semaines plus tard. Voilà, on prend la même précaution qu'avec n'importe quel aliment. Et voilà, et on voit ce qui se passe. C'est ça aussi qui est très compliqué en matière de nutrition, c'est que tous les individus sont différents, tous les bébés sont différents, donc chaque bébé va pas réagir de la même manière. Donc, faut être à l'écoute de son bébé, de son corps, et puis voir ce qui fonctionne le mieux. Mais c'est pour donner un petit exemple pour dire qu'il faut être un peu curieux pour aller chercher les informations et voir ce qui va fonctionner pour nous. C'est pas parce qu'on vous dit pas de légumineuses avant 18 mois que votre médecin ou la Société française de pédiatrie vous dit ça sans discussion, sans explication, que c'est quelque chose à prendre comme ça et puis c'est gravé sur le marbre. Voilà, c'est pas parce qu'on vous dit ça que voilà. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous dire autre chose et peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Voilà. Et c'est bien sûr ce que j'explore dans le livre et je propose plein de solutions pour faire manger les petits végés et qu'ils soient bien, qu'ils aient bien tout ce qu'il leur faut. Voilà. Je pense que je vais bientôt conclure, mais j'ai parlé tout à l'heure de la vulnérabilité de la femme enceinte, c'est de cette période dans laquelle on peut être parfois plus influençable. Mais paradoxalement, j'aime bien aussi souligner le fait que c'est aussi une période dans laquelle on a aussi beaucoup plus de force, hein, parce que on voit des femmes enceintes qui n'avaient jamais réussi à arrêter de fumer de leur vie, par exemple, qui arrêtent de fumer, qui se mettent à manger sainement alors qu'elles mangeaient n'importe quoi avant, enfin, qui puisent une force incroyable parce qu'il ne s'agit plus juste d'elles-mêmes, il s'agit de ce bébé à venir. Et voilà, et même des femmes qui changent complètement de vie, qui changent de métier, etc. Donc il faut s'accrocher à ça, puiser dans cette force. Ça peut être aussi une bonne occasion de réaffirmer ce choix. Et au contraire, plus fortement que jamais, avec la connaissance et avec la force de dire non, au contraire, c'est vraiment ça que je veux faire et je suis vraiment convaincue que c'est bon pour mon bébé. Toujours pareil, il faut, quelle que soit notre situation, ne pas être isolé, trouver des soutiens, si c'est pas le conjoint, si c'est pas le médecin, si c'est pas les parents, des amis, des groupes, même des groupes virtuels. Même des groupes Facebook. Ouais, aujourd'hui, on a aussi cette possibilité de se regrouper grâce à la technologie. Donc, c'est bien, quoi. Moi, je trouve que c'est bien. C'est au moins un des bons côtés de la multiplication des communications comme ça, des réseaux sociaux. Faut pas hésiter à pas rester isolé, surtout jamais rester avec une question ou un doute, voilà. J'aime bien aussi conclure en disant, bon, on pourrait me dire, mais végétarienne, enfin enceinte et végétarienne, c'est pas un sujet un peu bizarre, enfin un peu, pourquoi pas, je sais pas moi, pourquoi pas enceinte et dyslexique, intolérante au gluten, je sais pas quoi, enfin bon, c'est. Mais moi, j'aime bien justement dire que, au contraire, je pense que c'est vraiment un sujet de première importance. Parce que bah, c'est nos enfants qui vont changer les choses, c'est nos enfants qui vont faire la société de demain. Et en fait, plus il y aura d'enfants, bah, comme ma fille par exemple, qui sont en bonne santé, qui ont une pêche de feu, qui sont incroyables, magnifiques. Enfin bon, je suis très objective quand je dis ça. Mais, et qui sont nés, conçus et qui vivent végétariens, végétaliens. Et plus ça deviendra impossible, plus possible pour des pseudo... spécialiste de déclarer « Ah non, le régime vegan, le régime végétarien, ah non, c'est dangereux, ah non, ça fait des bébés plus petits, ah non, ça fait des bébés comme ci, comme ça », en se basant sur aucune étude, rien du tout d'ailleurs. Mais ils pourront plus le dire parce que, bah voilà, c'est ça, ils verront que la société a changé et voilà. Donc, voilà, c'est juste pour dire ça, que c'est un sujet de première importance, qu'il est temps pour la France de rattraper son retard là-dessus et que voilà, c'est comme ça qu'on changera le monde. C'est avec nos enfants, on fera basculer les croyances fausses, les préjugés, et puis voilà, petit à petit, on arrivera à un monde un petit peu meilleur pour nos enfants et puis pour les animaux. Voilà, bah merci. Et donc j'espère qu'il y a des questions.
J'ai une question à propos du fer. Dans un livre que je recommande qui s'appelle « Pour une naissance à visage humain », il est question de plein de choses. Enfin, ça remet un peu à sa place les examens qui ont des effets inquiétants pour les femmes. Ça peut être le diabète, etc. Enfin, et sur le fer, il était je crois me souvenir, ça fait très longtemps que j'ai lu, qu'il était précisé que comme le volume sanguin augmente et qu'on ne change pas le taux, enfin, il est juste, le fer est plus dilué, mais souvent il y en a assez quand même. Et puis je voulais vous poser une question, qu'est-ce que vous pensez de la spiruline? Je crois qu'il y a beaucoup de fer dedans. Il y a des femmes qui prennent du tardiféron et ça a des effets très négatifs. Et voilà, il me semble que la spiruline pourrait remplacer si on veut, quoi.
Bah, c'est ce que
est-ce qu'il y a des risques de surdosage de fer
?
Ah aussi,
oui, bah c'est oui, ça. Oui, le fer, c'est pas voilà. C'est pas comme la B12. Le fer, c'est quelque chose. Ça, c'est vrai qu'on parle beaucoup des problèmes de carence en fer, mais on parle pas de l'excès de fer qui lui est toxique. Hein, vraiment, pour le coup, hyper dangereux, y compris pour les enfants. Et ça, c'est vrai que c'est assez édifiant et choquant. Parce que, bon, je vais pas vous faire peur, mais je cite quand même dans un moment une étude aussi d'un magazine médical indépendant qui parle de, parce qu'aujourd'hui on donne, alors le grand truc, mais c'est un truc vraiment français, on donne des laits de croissance aux enfants. Ces laits de croissance, ils sont tous enrichis en fer. Et parce que bon, le fer, c'est hyper important pour la croissance et tout. Bon, ça c'est vrai, hein. Mais de ces suppléments, je fais lien avec ce que vous dites parce que je pense à cette question de la supplémentation artificielle comme ça et des effets néfastes qu'elle peut avoir. Alors ils ont justement, ils parlent d'une étude où ils ont fait un test sur les enfants justement qui étaient supplémentés comme ça avec du fer donc à haute dose comme ça, c'est-à-dire avec des produits systématiquement supplémentés en fer. Et alors ils disent que là ils ont carrément arrêté l'étude parce qu'il y avait un taux de mortalité trop important dans le groupe qui prenait ces produits. Donc quand on lit ça, c'est mon médecin qui est pas du tout végétarien, etc., qui m'a montré cette étude parce que moi-même je me posais la question de la supplémentation en fer. Donc oui, le fer trop haute dose, c'est toxique. Maintenant, c'est vrai aussi que c'est hyper important. C'est pour ça que moi, ce que je recommande toujours, c'est de se tourner vers des sources alimentaires. Comme j'ai dit, j'ai donné les exemples des légumes. En contrôlant son taux de fer et en consommant vraiment des produits riches en fer tous les jours, il n'y a pas de risque de surdose avec les épinards ou autres. Parce que c'est ça qui est génial dans la nutrition et dans la nature, c'est que dans les aliments entiers, dans les légumes, on ne va pas avoir le fer isolé, on va avoir le fer et puis des fibres et puis plein d'autres choses qui font que ça s'équilibre et que l'organisme l'assimile correctement. Voilà. Et oui, et puis pour continuer ce que vous disiez aussi, c'est vrai qu'on... Alors la spiruline, oui, la spiruline, très bien. La spiruline, c'est une algue, c'est une plante aussi. Enfin, il y a beaucoup de femmes enceintes qui jurent par ça et moi, j'y vois aucun problème. Si vous vous sentez bien en prenant de la spiruline, prenez de la spiruline, c'est top. Vous pouvez le mettre dans les smoothies, le mettre un peu partout, voilà. Donc ouais, c'est une bonne option. Le seul cas d'une supplémentation tardiféron ou autre, ce serait ouais vraiment si on faisait un test sanguin, qui on voyait qu'il y avait une déficience en fer très très grave et que voilà, pourquoi pas. Hein. Moi, je suis pas fermée du tout au complément, mais je dis c'est quand même, si on peut se tourner vers des sources alimentaires, c'est le mieux, c'est le top. Et pour revenir sur la toxicité du fer, justement, c'est, alors vous avez entendu sûrement il y a pas longtemps. On a beaucoup parlé de ça puisque l'OMS a dit a déclaré les viandes rouges comme cancérigènes au même titre que les cigarettes. Donc c'était le gros truc. On en parlait dans les médias et tout. Donc en se basant sur plein de d'études, en fait, sur des années et des années d'études, donc on a fini par admettre que bon, la viande ça posait des problèmes de santé graves. Et on ne sait pas trop pourquoi, en fait. C'est-à-dire qu'on a plein d'études qui montrent un lien entre la viande et la consommation de viande et l'augmentation de maladies comme le cancer, voilà. Et en fait, on ne sait pas trop pourquoi. Et une des pistes, c'est que les végétariens, justement, ils ont un taux de fer souvent un petit peu moins élevé que les autres. Ils ont du fer, mais ils ont moins de réserves de fer parce que le fer, ça se stocke. Et une trop grande réserve de fer, ça peut être lié à une forme de toxicité pour le corps. Et ce serait peut-être... Bon, alors, c'est une piste, hein, c'est pas... Encore une fois, moi, je donne pas de dogme, hein, donc moi j'explore en permanence le sujet. Donc voilà, c'est une piste, mais c'est vrai que voilà, il faut savoir que le fer c'est bien, mais c'est aussi à prendre de manière raisonnée. Voilà.
Avant de laisser le micro à quelqu'un d'autre, je voulais juste une petite remarque sur le mot materniser pour le lait. Je crois qu'il est interdit dans les publicités parce que c'est une publicité mensongère. Et moi j'aimerais bien que dans le langage courant on trouve une autre formulation. Parce que ça induit voilà, ouais, que c'est l'équivalent.
Enfin, je suis d'accord, je me suis déjà posé cette question, justement, bah, notamment en écrivant le livre, mais je ne sais pas s'il y a un autre terme qui a pu... parce que pour savoir de quoi on parle, c'est...
Peut-être mettre des guillemets ou la première fois faire un renvoi, une astérisque. voilà.
Bonjour, merci.
Bonjour.
J'aimerais savoir s'il existe une autre alternative à la B12 autre que quelque chose qui vienne de la mer.
Qui vienne de quoi ?
Quelque chose d'autre que la mer, en fait, enfin, des algues.
Ah non, alors la B12, c'est pas dans les produits de la mer. La B12, la B12 c'est une bactérie, en fait. Donc elle est Non, les suppléments en B12, c'est pas fait avec les algues. C'est peut-être l'iode dont vous parlez ?
Ah oui, c'était l'iode, ouais, surtout.
Ouais. L'iode, eh ben non, l'iode, en fait, aujourd'hui, la plupart des sels de table que vous achetez dans le commerce, ils sont iodés, justement. Ça a été imposé à un moment par les pouvoirs publics, je pense, parce qu'il y avait des carences en iode chez certaines personnes. Et les carences en iode, ça fait des malformations très graves aussi. Et du coup, on a eu tendance à mettre de l'iode partout. Et si vous regardez, il y a marqué sel iodé sur les boîtes. Donc en fin de compte, si vous voulez pas du tout consommer d'algues, mais vous avez tort, parce que c'est très sympa. si vous voulez pas du tout consommer d'algues, il suffit d'avoir comme sel de table un sel iodé et de l'utiliser comme sel normal régulièrement. Il n'y a pas de problème de carence avec ça. C'est ce que font la plupart des gens. Hein. Les gens mangent pas des tonnes de poissons souvent. Enfin, c'est simplement du sel iodé. Je peux pas dire mieux.
Et pour la B12, du coup, c'est que dans... On peut l'avoir que en complément alimentaire, en fait.
Si vous êtes végétalien, si vous êtes végétarien, si vous consommez des produits laitiers et des œufs, vous pouvez avoir de la B12 là-dedans. Mais aujourd'hui, on a tendance à plutôt encourager même les femmes végétariennes à se supplémenter. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de surdose. Donc il vaut mieux en avoir un peu plus. Pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, voilà. Bon, mais sinon, vous en trouvez. Il y en a beaucoup dans le camembert. Il y en a beaucoup, voilà. Donc, je sais pas. Il y en a dans les produits laitiers. Ouais. Au revoir.
Oui, je voulais juste préciser par rapport aux médicaments qu'on peut prendre, par exemple le tardiféron. Il y a un enrobage animal bien souvent. Il faut quand même faire attention.
Sur le tardiféron.
Voilà, par exemple. Donc ouais. Le fer, il vaudra mieux le prendre dans un. C'est pas très bon, hein, mais. Dans un liquide, enfin souvent ils vendent sous forme liquide ou sous forme de poudre où il n'y a voilà.
Effectivement, ouais, voir avec le médecin une alternative, si... Oui. Sachant que l'idée c'est toujours essayer d'éviter d'avoir à prendre ce type de supplément, mais ouais.
Oui. Mmh. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très dur lorsqu'on veut prendre certains médicaments d'éviter. Parce que la plupart ont des enrobages animaux, en fait.
Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, de toute façon, voilà. Après, c'est une question de mesurer quand il s'agit de sa santé, de la vie de son bébé. Bon, voilà, il faut faire des choix aussi. C'est voilà.
Et concernant la B12, j'en ai trouvé dans la levure de bière.
Non.
Que j'ai vu sur le...
Non.
Voilà. Je me posais la question.
Faire... Non, non. D'accord. Il faut faire attention avec ça. Vous allez aussi voir ça sur la spiruline. Ouais. Cherchez un petit peu sur internet, vous verrez. beaucoup d'articles. Faut toujours se tourner vers les associations officielles hein, qui connaissent bien, comme la Vegan Society ou l'Association Végétarienne de France, des gens qui connaissent, qui sont à la pointe sur le sujet, et pas écouter un peu des trucs à droite à gauche. Il y a marqué B12 sur ces produits, mais c'est pas de la B12 qu'on arrive à synthétiser, à assimiler. Donc il y a des véganes qui disent ça suffit, mais aujourd'hui c'est pas vraiment sérieux de dire ça. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est le point de vue officiel des associations. Donc ouais, on pourrait dire ah génial, mais non, malheureusement non. Okay. Par contre, vous avez des produits fortifiés en B12 qu'on trouve dans le commerce. Qui là sont là, c'est de la B12, là c'est vraiment de la B12 de culture, c'est elle, celle-là elle est biodisponible.
Ouais,
okay. Donc vous avez des laits maintenant qu'on trouve qui sont enrichis dans les pays nord-américains. On trouve beaucoup de produits enrichis en B12, c'est vraiment voilà, ici c'est plus dur, mais on en trouve quelques-uns, quoi. Ouais, voilà, si on veut pas prendre un truc, une gélule ou un machin. Oui, oui. Maintenant, il y a plein de formes de B12. Il y a des sprays, c'est assez facile à utiliser. Si on doit prendre qu'une supplémentation, ce serait ça.
Ouais,
pour
d'accord.
le. Bon, après, c'est des choix.
Voilà.
Il n'y a plus d'autres questions. Bah, s'il n'y a plus d'autres questions, je voulais quand même vous dire, j'ai oublié de le dire, que je vais être du coup au stand de Terre Vivante et puis voilà, je vais dédicacer des livres si ça intéresse certains d'entre vous.
J'ai juste une petite question.
Ouais.
Comment vous allez, une fois que votre enfant, ou si je ne sais pas, c'est peut-être déjà fait, va aller à la crèche ou à l'école, de dire que votre enfant est végétarien?
Oui, alors cette question, elle est dans toutes les conférences que je fais. C'est une très bonne question et très, très délicate encore, parce que c'est vrai que, voilà, bon, je l'ai déjà dit, on est dans une société où c'est pas encore hyper acquis. Le conseil que je donne, c'est de faire comme avec les médecins, comme avec la famille, c'est-à-dire de tâter le terrain, de voir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Ça va vraiment dépendre hein, d'une école à l'autre. Vous pouvez tomber sur des gens assez compréhensifs et puis vous pouvez tomber sur des gens très fermés, voire il y a des trucs dangereux, même des fois il y a des gens qui signalent des enfants. Enfin bon, on est des fois dans des trucs complètement hallucinants. Je vais pas faire peur non plus, encore une fois, mais ça existe hein, en France, parce que il y a tellement un manque d'informations sur le sujet que voilà, on peut encore se retrouver face à ça. Si on est obligé de mettre son enfant à la cantine, on a aussi un autre problème en France, c'est qu'on n'a pas le droit d'amener son panier repas, hein, parce que aux États-Unis, par exemple, ça poserait pas de problème. Voilà, on n'a pas le droit de. Donc du coup, c'est délicat. Le mieux, c'est d'essayer dès l'inscription à l'école, d'essayer de trouver l'école qui nous correspond le mieux pour ça, c'est-à-dire une directrice qui soit au minimum, c'est comme le médecin, si elle n'est pas informée, au minimum bienveillante, pas hostile, qui va au minimum tolérer et accepter que ce soit. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est ce qui est. Alors, parce qu'il y a souvent la question religieuse hein, en France aussi, donc. On n'est pas obligé, on n'a pas forcément à s'étendre sur notre vie privée ou sur les raisons. Hein. Et quand on ne s'étale pas, ils vont pas oser tellement explorer parce qu'ils vont penser aux trucs religieux et tout ça. Donc, il vaut mieux dire un truc du style, moi c'est ce que je faisais, enfin c'est moi qui, je souhaiterais que ce soit moi qui m'occupe des protéines. Donc, si c'est possible, je m'en occupe à la maison, je gère ça, pas besoin de faire de détails. Et puis, généralement, ils respectent. S'ils ne respectent pas, c'est quand même qu'on est sur une école un peu fermée et je voudrais mieux peut-être essayer de changer, quoi. Mais allez, ça, généralement, donc avoir un discours modéré en fonction du truc. Mais bien sûr, après, ce qu'il faut, c'est surtout aussi faire évoluer la société. Il faut aussi se regrouper, les parents végétariens, végétaliens. Encore une fois, aller vers les groupes, demander conseil aux autres, comment ils ont fait. Il y a l'Association Végétarienne de France aussi qui fait beaucoup de choses dans ce sens, qui milite beaucoup pour des options végétariennes dans les cantines et elle a toujours des pétitions, des trucs, donc il faut faire bouger les choses aussi à ce niveau-là pour que un jour ce soit mieux. Mais surtout moi maintenant j'en suis venue à me dire que le mieux c'est s'organiser entre nous. Donc voilà, moi je suis sur un projet aussi de faire un site aussi, justement pour regrouper les mamans qui ont un peu le même état d'esprit et pour échanger, s'informer, échanger des conseils et puis se regrouper éventuellement. Si on se regroupe, par exemple, par école, voilà, ensemble, on est plus fort et on peut peut-être faire changer les choses petit à petit. Voilà, c'est un combat.
C'est juste pour dire que les régimes sans viande, ils existent à l'école, en fait. Enfin, en tout cas, dans toutes les écoles dans lesquelles je suis passée, il y avait le régime sans porc et le régime sans viande. Moi, j'ai des élèves qui sont végétariens et du coup, ils sont sans viande.
Bah, c'est pas l'écho que j'ai de plein de parents. Il y a plein de situations problématiques qui sont développées. Alors peut-être que sur papier, oui, mais dans la réalité, personne n'est à l'abri de tomber sur une directrice ou une qui va dire « Ah là là, cet enfant, ça va pas », qui va pas l'accepter ou qui va être hostile. Ça arrive, malheureusement. C'est pas moi qui invente ça. Hein,
Mais je pense que c'est un rapport avec la mairie, en fait, puisque vu que c'est la mairie qui gère la cantine, ça doit être une histoire de mairie. À Lyon, enfin, en tout cas à Villeurbanne, peut-être nous, on aussi. Est sans viande.
Bah, et à Vaux-en-Velin aussi. Oui, c'est sûr que ça, oui, ça donne le ton, hein, c'est sûr. Si c'est des crèches ou des écoles, oui, c'est vrai que ça doit donner le ton. Mais j'ai des milliards d'histoires de gens qui se sont retrouvés dans des situations très problématiques parce que l'école était, voilà, pas du tout favorable et pas du tout accueillante à ce niveau-là. Mais oui, dans l'idéal, ça doit être possible. Hein, ça doit être possible. Il faut le dire simplement. Comme je dis, encore une fois, on n'a pas à s'étaler sur les raisons de ce choix. C'est un choix. Je demande à ce que mon choix soit respecté à la cantine. C'est tout. Bon, bah, merci. Donc, peut-être à tout à l'heure sur le stand Terre Vivante. Voilà, merci.